Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Cela ne vous a sûrement pas échappé, mais nous sommes en pleine rentrée théâtrale, en pleine rentrée artistique, disons, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Rey et Mélanie Pichon du Théâtre en pièces, qui vont nous parler de leur prochain spectacle, un spectacle autour de Tchekhov. Alors, si vous permettez, je vais commencer par Emmanuel Rey. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez commencer votre saison avec un spectacle qui s'appelle
Le Dernier Chant.
Le Dernier Chant. Alors ce spectacle, c'est un spectacle à partir
du Chant du Cygne. Bon, alors c'est vrai que avec Mélanie qui aime énormément Tchekhov, elle m'a soufflé dans les oreilles Tchekhov. On monte. Et donc j'ai fini par lire moi qui ne au départ, n'était pas très convaincu de Tchekhov.
Non, mais il y a prescription.
Il y a prescription. Donc, je me suis mis à lire et à relire les nouvelles que Mélanie lisait par ailleurs. Et tout simplement, je me suis dit, ça serait bien quand même qu'on aille dans cet univers-là.
Alors, je vais quand même préciser une chose. Votre spectacle est un peu autour d'une pièce en un acte qui s'appelle Le Chant du Cygne. Alors, de Tchekhov, les pièces en un acte, on connaît essentiellement en France L'Ours ou La Demande en mariage, qui sont des farces, on va dire. Oui. Le Chant du Cygne, c'est quand même une pièce brève, mais assez intense, autour de laquelle vous avez mis des contes de Tchekhov.
Oui, alors, pour revenir...
D'abord, attends, excuse-moi.
Pardon.
On va parler de la pièce, du Chant du Cygne. Tu peux en parler ?
Oui, oui, bien sûr. Le Chant du Cygne, c'est effectivement un comédien qui est là pour sa dernière représentation c'est sa dernière confrontation au public qu'il aime, même s'il dit qu'il déteste. Et il se met à picoler, à boire, faire la fête,
à délirer,
mais comme tout un chacun, j'allais dire comme tout acteur, non, mais comme tout un chacun, à un moment donné, quand on a envie de clôturer quelque chose, peut-être, et il se réveille, et il constate, et il est là, devant cette fosse noire.
Le public est parti,
il est tout seul dans sa loge. Il se réveille et il prend conscience de toute sa vie et de toute sa vie de comédien, de sa vie, de ce qu'elle est devenue. Et il prend conscience de la vieillesse qui arrive, de la mort qui arrive. Et il fait un peu le point sur sa vie aujourd'hui de théâtre. Et il y a une espèce de désillusion sur la vie qu'il a choisie tout au départ. Et puis, petit à petit, Shakespeare le rattrape, Pushkin le rattrape, les mots de théâtre le rattrapent.
Le rêve le rattrape.
Et il repart.
Ça, c'est très, très, très important.
Il y a une chose importante dans la pièce. C'est que, alors qu'il est sur scène, il réalise que le public est parti, qu'il est tout seul, qu'il va peut-être plus monter sur scène, on ne sait pas trop, et arrive sur scène... Le souffleur qui lui semble avoir dit il dort dans la loge et il retrouve ce comédien et entre eux va s'établir une sorte de relation et le comédien va se servir du souffleur pour repartir de plus belle en demandant au souffleur de lui donner la réplique
et j'aime bien sur ce terme de souffleur, parce que finalement, on a besoin du souffle, simplement. Tout un chacun, on a besoin pour vivre du souffle, d'un vrai souffle, d'une vraie aspiration. Et voilà, et où chercher notre souffle, chaque fois, et même surtout à des moments donnés. Alors là, il y a quelque chose de très jubilatoire et drôle au départ dans le chant du cygne, c'est l'âge qu'on donne aux comédiens. Dans la nouvelle, parce que c'est tiré d'une nouvelle au départ de Tchekhov, de Katch, et il avait 58 ans. Et puis dans la pièce, il a 68 ans. Moi, j'ai remis 58 ans parce que c'est plus près de mon âge, quand même. Et donc, et simplement pour dire ce que. À quel moment les choses peuvent s'arrêter ? On peut, tout un chacun, on peut s'arrêter à 40 ans, à 50, à 60, à 70, etc. À quel moment on n'a plus l'envie de quelque chose ? Et ce qui importe, c'est d'avoir toujours envie de quelque chose. Toujours. Si nous montons cette pièce, c'est bien parce que nous croyons à l'envie. Et si, de façon anecdotique, on met sur notre page de couverture un théâtre quelque peu délabré, notre théâtre n'est pas du tout délabré, et surtout que l'intérieur est toujours en construction, toujours en réflexion. Et voilà.
Et c'est quand on prend, enfin, ce qui est très beau chez Svetlovidov, le vieil acteur, c'est qu'il prend conscience que la mort arrive, mais comme le disait Emmanuel, à n'importe quel âge, on peut avoir conscience de la mort qui arrive, de la vieillesse qui arrive, et pourtant, en fait, c'est malgré lui que les mots, le théâtre vient, c'est malgré lui que les choses se remettent à renaître en lui, et le besoin de jouer est plus fort.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, je ferais remarquer, c'est qu'au départ, la pièce... Ça s'appelait pas le chant du cygne, ça s'appelait Calcas. Mmh. Et Calcas, pour rappeler les choses, c'est le devin qui a joué un rôle primordial dans la guerre de Troie, la guerre des Grecs contre Troie. Calcas, c'est celui qui a dit à Agamemnon de sacrifier Iphigénie, et c'est lui qui a donné aux Grecs l'idée de construire le cheval de Troie, mmh. le fameux cheval de Troie. Donc, il y a ce comédien. Si Tchekhov l'appelle Calcas au départ, c'est peut-être parce qu'un comédien, c'est un peu comme un devin qui anticipe les événements, qui les domine. Enfin, je ne sais pas, après, voilà. Chacun...
Non, mais c'est vrai que c'est une fenêtre. Le théâtre, c'est toujours une fenêtre qui nous permet de peut-être avoir des interrogations qui nous bousculent et qui fait qu'on peut s'interroger sur ce que nous faisons dans l'instant présent. Voilà, et c'est une fenêtre importante à conserver.
Seriously. Radio Grand Ciel.
Nous avons vu tout à l'heure, nous avons parlé tout à l'heure avec Emmanuel Rey du Chant du Cygne, une pièce en sonate de Tchekhov, mais ce spectacle Tchekhov inclut en même temps, enfin autour de cette pièce de théâtre, certaines nouvelles de Tchekhov. Alors Mélanie, est-ce que vous pouvez... Alors, on va peut-être rappeler simplement pour que le remise en mémoire, Tchekhov est né en 1860. Il a beaucoup travaillé pour arriver à être médecin. Au départ, il était médecin. Et puis, il a commencé à écrire dans des revues, des nouvelles, des récits. Et à la fin, il s'est entièrement consacré à la littérature, tout en continuant à donner des soins comme médecin. Alors, Mélanie, tu peux nous parler des nouvelles, s'il te plaît?
Alors, en fait, c'est vrai qu'on est parti du Chant du Cygne. On a décidé... On a lu beaucoup, beaucoup de nouvelles. C'est un univers magnifique, les nouvelles de Tchekhov, c'est extraordinaire. C'est d'une profondeur, c'est toujours très concis, très précis, et ça va très vite, et à la fois tout se joue dans ces nouvelles. Donc on a été vraiment sous le charme de ces nouvelles, et on a voulu absolument en intégrer. En fait, on a choisi des nouvelles qui nous... rappelle en fait la vie de... C'est la vie de comédien aussi. On est toujours dans ce dernier chant. On raconte le passage de certains comédiens. Et donc, on a choisi aussi la nouvelle du Baron, qui est donc l'histoire d'un souffleur. C'est l'une des... Dans les premières nouvelles qu'il a écrites dans les trois premières années où il a commencé à écrire des nouvelles vers 1886. Et donc, le Baron, c'est l'histoire d'un souffleur qui voit les autres comédiens passer, qui voudrait lui jouer, mais qui ne peut pas jouer. Et qui décrit comment les autres comédiens jouent mal, et lui il veut jouer Hamlet, et petit à petit il va jouer Hamlet. Et il y a aussi, comme dans le Chant du Cygne, ce désir de cet amour du théâtre très fort, et cette envie d'y aller mais difficilement. Et puis il y a aussi la nouvelle Elle et lui, qui est l'histoire aussi d'une grande star de théâtre, d'une grande vedette, et son ami, son amoureux la décrit et donne tout son côté sombre du quotidien, et pourtant à partir du moment où elle apparaît sur scène, elle est splendide. Et dans l'idée, chacun dans sa petite vie, dans son petit quotidien, on peut être tout petit et pas grand-chose, et puis à un moment donné, quand on monte sur une scène, il y a quelque chose qui s'éclaire à l'intérieur, et la scène fait tout, quoi.
C'est étonnant, parce que ce que vous dites, ça me rappelle un des premiers grands succès de Tchekhov, à savoir la pièce en trois actes, ou quatre actes, La Mouette, où il y a justement cette comédienne qui veut percer, et puis cette comédienne déjà reconnue, un peu star, comme on ne disait pas à l'époque, etc. Je vais rappeler simplement, pour mémoire, que Tchekhov est devenu célèbre au théâtre grâce à Stanislavski au Théâtre d'Art de Moscou. Et d'ailleurs, on peut signaler que le Théâtre d'Art de Moscou, qui existe toujours, a gardé comme emblème une mouette sur son rideau de scène. Je sais pas, voilà. La mouette, c'est resté le signe du Théâtre d'Art de Moscou, de Stanislavski, où la future épouse de Tchekhov a joué comme comédienne, Olga Knipper, mais nous en parlerons tout à l'heure. Donc, on peut dire quand même, le dernier chant, ce spectacle à partir du Chant du Cygne et des nouvelles dont vous avez parlé tout à l'heure, vous pouvez assister à une répétition publique du spectacle le vendredi 2 octobre, de 18h à 19h, dans la salle des Abbayes Saint-Brice, d'accord ?
Au Théâtre de Poche.
Et ce spectacle sera représenté toujours au théâtre de Poche, aux Abbayes Saint-Brice, le vendredi 9 octobre à 20h30 et le samedi 10 octobre à 20h30. Voilà. D'accord ? C'est ça ? Je ne me suis pas trompé.
Non, pas du tout, en sachant qu'ensuite, on en parlera sûrement, mais il y aura une longue série de représentations à Chartres au mois de mars. Mais pour l'instant, effectivement, on avait tenu à avoir ces deux premières représentations pour avoir déjà une première confrontation avec le public et un bel échange, j'espère. Oui, je suis un peu... Voilà, parce que je suis... Là, je me remets à être complètement sur scène. Merci, Mélanie, de me donner cette possibilité-là. Parce que vraiment, même si on travaille de façon très, très, très... en collaboration sur la mise en scène, etc. C'est vraiment Mélanie qui dirige les choses là et qui permet que on aille Oui, qu'on puisse ne pas s'installer en quelque sorte. Et ce que j'ai voulu, c'est que dans ce projet-là, il y ait encore l'envie de chercher, etc. Et l'incertitude à être pour ma part sur le plateau. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que... Voilà.
Alors, par contre, une chose qu'on a oublié de dire, c'est que dans la pièce Le Chant du Cygne, vous jouez le rôle principal, le cabotin. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous avez un... Je n'ose pas dire un second rôle, parce que je ne crois pas tellement au second rôle au théâtre. Mais vous avez un personnage très important, qui est le souffleur, mais qui est joué par
Fabien Moigny, voilà. Et qui est remarquable dedans aussi, je tiens à le dire, qui fait aussi un boulot remarquable. Mais c'est vrai qu'on a tenu à ce que tous les trois, après Caligula, après une œuvre complexe, etc., ça ne veut pas dire que celle-ci n'est pas complexe, mais ce que je veux dire, avec beaucoup de monde, on puisse se resserrer là sur trois personnes là, et fabriquer une chose à trois avec notre complicité, notre désir, nos interrogations et tout ça. Et c'est vraiment à trois qu'on fabrique cette chose-là. Et ça, c'est important.
Y a une chose, avec
Fabien Moigny.
Il y a une chose importante, je trouve, c'est que dans le théâtre de poche, c'est une salle qui crée un sentiment d'intimité qu'on n'avait pas qu'on n'aurait pas avec une pièce avec beaucoup plus de distribution. Là, on s'est resserré, on est directement en contact avec le public. Je ne dis pas que les comédiens sont sur les genoux du public, mais presque. Et donc, ça permet une approche plus directe, plus instantanée, on va dire.
C'est ça.
Vous êtes d'accord?
Oui, complètement d'accord.
Et pour continuer sur ce que disait Emmanuel, c'est une histoire à trois. Donc, Emmanuel, on a parlé de la scénographie à un moment. C'est Emmanuel qui a construit le décor. Et puis aussi, l'idée, c'est vraiment qu'on est tous des comédiens.
Oui, c'est moi qui l'ai construit, mais aussi avec l'aide de Fabien et de Jean Cardozo. Et c'est vrai que je l'ai conçu suite à nos échanges avec nos idées. Mais voilà, pas tout seul.
Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, l'idée, c'est qu'on est trois acteurs sur le plateau où on va jouer des comédiens à un moment de leur vie. Il va y avoir des séquences comme ça qui vont être très découpées et où les nouvelles apparaissent. Et à chaque séquence, on va être costumé de manière très différente et de manière très éclectique, on va dire. Et comme on ne sait pas si c'est les mêmes comédiens qui reviennent à des moments de leur vie différents ou est-ce que ce sont différents comédiens qui passent des étapes différentes de ce que c'est la vie de scène en dehors, dans les loges, quand je me démaquille, quand je rentre chez moi, quand je prends les applaudissements, quand je suis plus rien après une représentation. Voilà. C'est tous ces moments de vie en fait, de comédiens qu'on traverse pendant une heure.
Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.
Alors, nous revenons à Tchekhov, puisque en plus du spectacle Le Dernier Chant, vous allez proposer au mois de novembre, mais on n'a jamais été aussi près du mois de novembre, vous allez proposer une lecture passionnante parce que Tchekhov est mort très jeune, il avait 44 ans, il est mort de la tuberculose, il le savait parce qu'il était médecin, et sur la fin de sa vie, il a épousé une comédienne du Théâtre d'Art de Moscou qui jouait avec Stanislavski, Olga Knieper. Knieper, elle était russe, mais elle avait des parents d'origine allemande. Et ce qui était paradoxal dans leur couple, c'est que Olga Knieper jouait à Moscou, puisque le Théâtre d'Art jouait à Moscou. Tchekhov, pour des raisons de santé, était obligé de rester à Yalta, sur les bords de la mer Noire. Et ce couple formait un couple à, on va dire, 1500 ou 1800 kilomètres de distance. D'accord. Et ce qui est intéressant dans leur correspondance, mais je vais vous laisser en parler, c'est qu'ils se confiaient l'un à l'autre, aussi bien en tant qu'époux et épouse, qu'en tant qu'auteur et comédienne. Alors, qui va, Manuel ?
Eh ben oui, non, mais c'est simplement, moi j'ai été sous le charme de ces lettres. C'est vrai que... il y avait forcément des correspondances au-delà de leurs propres correspondances, des correspondances entre ce que nous vivons aussi, Mélanie et moi. Je veux dire, non pas dans la distance et dans la séparation, mais dans les interrogations tant liées au théâtre, liées à la proximité de notre vie, et qu'est-ce que ça nous apporte aussi à cette envie de créer. Alors certes, moi je ne suis pas auteur, je suis simple metteur en scène d'habitude, mais c'est vrai que ces interrogations-là étaient très intéressantes comme clé et déclencheur d'envie, de rêve, etc., et de désir à aller vers soit telle ou telle pièce, soit telle ou telle création en tant que comédienne.
Il y a une réflexion sur l'art. Qui est vraiment très, très passionnante entre les deux, du point de vue de l'auteur, du point de vue de la comédienne, les réflexions sur la construction des personnages qu'elle a, etc. Donc forcément, ça nous parle beaucoup et on avait envie de les
écouter. Et avec énormément aussi de simplicité dans cette correspondance et de beauté des mots. Mais surtout aussi avec les doutes des... Et quand, on se dit, mais oui, on est tous différents, mais on est tous semblables. Mm-hmm. C'est ça qui est génial aussi.
Il y a une chose qu'on peut dire, c'est que le Théâtre d'Art de Moscou, donc dirigé par Stanislavski, venait régulièrement l'été à Yalta pour jouer les pièces devant Tchekhov, parce que Tchekhov ne pouvait pas toujours se déplacer. D'ailleurs, il est mort peu de temps après la création de sa dernière grande pièce, La Cerisée. Il est mort à Badenweiler, en Allemagne. Alors, je signale, pour ceux que ça intéresserait éventuellement, il est mort à Badenweiler. Ça se trouve à quelques kilomètres de Mulhouse. Donc, vous pouvez aller voir, c'est une ville d'eau, et il y a un petit mémorial à Tchekhov. Et, alors, vous parliez tout à l'heure de l'humour de Tchekhov, un petit humour. Lorsque son corps de Badenweiler a été rapatrié à Moscou, tous les amis qui attendaient à la gare de Moscou ont été surpris parce que le cercueil est arrivé dans un fourgon qui servait au transport des huîtres.
Oui, tout à fait.
Donc c'est comme si la vie, plutôt la mort, jouait une dernière fois l'humour de Tchekhov.
Une farce comme ça, anodine, qui arrive et qui est incroyable.
Et c'est tout à fait dans l'esprit de certains des récits.
Ah oui, tout à fait.
C'est assez extraordinaire. On peut dire que Olga a continué à être comédienne au Théâtre d'Art de Moscou jusqu'à sa disparition en 1954. Un des neveux de Tchekhov, Michel, est parti aux États-Unis. Il a créé une école qui a été reprise notamment par Elia Kazan et Eli Strasberg et qui a donné naissance à l'Actor Studio. Donc la filiation entre Tchekhov et des comédiens contemporains est toujours présente.
Ouais. Non, mais c'est ça qui est admirable et que même si on ne vit pas toujours de la même façon les propos, ce que nous disons, ce que nous transmettons, ces propos sont continuellement là et interrogent toujours. Et ce que je veux dire, c'est dans cette correspondance elle est imminemment actuelle, je veux dire, avec et c'est ça qui est très
important. Je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été écrit, mettons, au début du XXe siècle, entre 1900 et 1904, et ça nous parle toujours.
Alors,
En plus, en ce moment, c'est vraiment Tchekhov est monté énormément énormément en France aujourd'hui parce qu'il nous parle précisément en ce moment.
Alors, on va rappeler d'abord une répétition publique du dernier chant le vendredi 2 octobre à Saint-Brice de 18h à 19h. Le dernier chant qui va être représenté au Théâtre de Poche aux Abysses Saint-Brice le vendredi 9 octobre et le samedi 10 octobre à 20h30. Et pour conclure, la lecture de d'extrait de la correspondance entre Tchekhov et son épouse Olga Knipper le samedi 28 novembre à 17h au Théâtre de Chartres. Si vous avez de quoi noter, le numéro de téléphone du Théâtre de Poche, c'est 02 37 33 02 10. Vous pouvez aussi retrouver tous ces renseignements sur www.tep28.com. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Mélanie. Merci Emmanuel.
Merci.
Et bonne représentation de Tchekhov.
Merci.